Mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national.
Les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes alors des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction germée nausée. Le tiers-monde crève, les porcs s'empiffent, la tension monte, les chiens griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, parqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et au Chine, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des courants. Des sages conduits à la démence, Beethoven devient ultra-violence. Monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout finit en règlement de compte à coups de schlag, le sang inonde.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission de groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir un grand historien, Monsieur Gérard Noiriel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Monsieur Noiriel, nous vous recevons parce que nous avons lu dans l'Humanité une interview de vous sur un tract que vous avez publié chez Gallimard qui a pour titre « Préférence nationale, leçon d'histoire à l'usage des contemporains ». C'est le tract de Gallimard numéro 55 à 3,90€ dans la collection des tracts de Gallimard. Et avant qu'on en vienne à proprement parler de préférence nationale, je voudrais que vous présentiez votre parcours à nos auditeurs. Vous êtes fondateur de la revue Genèse, directeur de l'EHESS, et surtout vous avez travaillé avec un grand monsieur de la radio et de la télévision, monsieur Marcel Triard.
Oui, bien écoutez, merci pour votre invitation. Déjà, alors je voudrais juste préciser, je ne suis pas le seul fondateur de la revue Genèse, c'est co-fondateur. C'est une équipe, c'était une équipe. Hein. Puis donc, directeur d'études, je ne suis pas directeur de l'école des études, je suis directeur d'études dans cette institution. Voilà, je ne voudrais pas qu'on me reproche après de m'attribuer des titres que je n'ai pas. Mais et ce qui est tout à fait juste, oui, c'est que j'ai connu tout au début de ma carrière, Marcel Triard, qui est devenu un ami aussi, hein, et je l'ai connu parce que je dis souvent, moi j'ai fait de la radio avant de faire de l'histoire, quasiment. Puisqu'en fait, vous savez, c'était pendant les grandes grèves de la sidérurgie en Lorraine, en 78-79. Moi j'étais prof à l'époque dans un collège de la banlieue de Longwy, au moment où il y a eu le plan de restructuration de la sidérurgie, et c'était voilà, condamné... Des milliers de gens au chômage, la destruction d'une industrie centenaire, etc. Donc j'ai participé, moi à l'époque j'étais militant de base du Parti communiste. Cette lutte a d'ailleurs amené d'ailleurs à une rupture, puisque ce que j'ai raconté dans mon tout premier livre qui s'appelle « Vivre, lutter à Longwy », qui est un livre militant, j'ai écrit avec un ouvrier, un OS d'origine marocaine, qui s'appelle Benasser Azaoui, qui lui a raconté les formes de discrimination qui existaient au sein de la CGT. Mais à l'époque, ce genre de choses ne passait pas au sein du PC. Et donc, voilà. Bon, bref, ça, c'est pas le plus important. Mais la radio Lorraine Cœur d'Acier a été vraiment l'événement majeur dans ce combat, parce que ça a été une lutte vraiment intense. Hein. Toute la population a participé pendant 6 mois à tel point que le Monde avait parlé de la République populaire de l'Ouï, hein, mm-hmm. avec des opérations coup de poing. À côté, les gilets jaunes, c'était des petits anges, hein. C'était très violent. Et moi, tous mes élèves, leurs parents travaillaient à la sidérurgie, alors moi, j'ai arrêté mon programme. Et j'ai fait l'histoire de la sidérurgie avec les élèves, avec tout ça. Bon. Et en même temps, donc, après, moi, j'ai fait ma thèse sur l'histoire de cette région. Et j'ai noué des liens avec Marcel Tria, qui m'a demandé d'animer les émissions d'histoire à la radio Lorraine Cœur d'Acier.
Tout à fait.
Et c'était une expérience très, très intéressante pour moi, très enrichissante, qui m'a d'ailleurs poussé à me dire, mais bon sang, l'histoire de ces ouvriers-là, personne ne l'a jamais faite. C'est à la fois l'histoire de l'immigration, c'était le premier arrondissement de France pour le taux d'immigration, mais aussi une réussite du point de vue de ce qu'on commençait à appeler l'intégration, mais pas le langage technocratique. C'était, les gens le faisaient eux-mêmes, c'est-à-dire le travail, autour du travail, autour, vous voyez, des valeurs de solidarité, etc. C'est ça qui avait créé cette société. Et je me suis rendu compte que, en vivant sur place, eh bien, les raisons profondes de la puissance de cette lutte, c'était bien sûr la perte d'emploi, mais c'était aussi la perte d'une identité collective qui s'était constituée même. Voyez, et c'est ça que j'ai rappelé dans mon livre en montrant l'éclairage historique de toute cette histoire-là. Donc ça a été vraiment pour moi tout à fait fondateur dans ma carrière par la suite, dans mon souci aussi. J'ai créé une association, déjà ma première association d'éducation populaire à ce moment-là, qui s'appelait l'APEP, l'Association pour la préservation et l'étude du patrimoine de l'Ouï, parce que les bureaucrates, ils voulaient tout raser. C'était pour eux honteux. Hein. Ils voulaient mettre soi-disant des nouvelles technologies. Il n'y a jamais rien eu. Hein. C'est devenu une région de retraités. Mais alors nous, on s'est battus avec les militants locaux pour la lutte pour le crassier, pour conserver le crassier. Vous voyez, des lieux symboliques qui marquaient les luttes ouvrières, les enjeux, la souffrance aussi, tout ça. Et puis, voilà, donc ça a été un peu le point de départ pour moi dans ce que j'ai pu faire après, à la fois sur le monde ouvrier d'un côté, sur l'histoire des migrations de l'autre.
D'accord. Alors, je rappelle que Pas de quartier avait reçu le 5 octobre 2021 Tristan Thiel, l'auteur de BD de Lorraine Cœur d'Acier, et on avait diffusé le premier épisode de la compilation consacrée à Marcel Tria. Voilà. Vous pouvez le réécouter sur le site du groupe Louise Michel. C'est groupe-louise-michel.org et il faut aller dans la rubrique Pas de quartier. Et vous cherchez l'émission qui s'appelle Lorraine Cœur d'Acier. C'est 2h12 d'émission. Et vous avez le premier épisode d'un morceau de Chiffon Rouge de Marcel Tria. Voilà. Bien. Et vous avez aussi l'émission avec Raymond Macherel, où on avait parlé aussi de Marcel Tria, quelques 15 jours auparavant. Voilà. Donc, Monsieur Noiriel, nous avons constaté avec consternation et indignation que à part l'humanité, et vous venez de me dire à l'instant La Croix,
un petit article,
peu de gens ont relayé l'information sur Préférence Nationale. Pourquoi, à votre avis ?
Mais je crois que, moi je vois l'évolution, hein, depuis, je suis un ancien dans le système, et je vois en 30 ans quand même l'évolution des médias. C'est-à-dire, il y a une concentration, et surtout, c'est au jour le jour maintenant. C'est-à-dire, il y a un jour c'est pour ceci, le lendemain c'est pour cela, etc. Et en plus, il y a évidemment des raisons politiques, puisque on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera de Marc Bloch, mais moi je suis fidèle à cet idéal de Marc Bloch, c'est-à-dire, vous savez, moi une chose qui m'a marqué dans ma vie, qui vient aussi de mes origines sociales, de ce que j'ai pu traverser, ça a été la réflexion, mais de quel droit on va parler à la place des autres ? Donc, moi, les militants le font, et c'est légitime aussi, hein, que les militants puissent le faire, sinon il n'y aurait pas de mouvement de lutte. Mais il faut toujours s'interroger aussi sur les porte-paroles. C'est ça aussi pour la démocratie. Et en même temps, moi je me dis, quand je fais mes recherches historiques, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Je suis là pour expliquer les choses, avec mon travail. Donc c'est ça aussi que j'essaye de faire. Je prends un objet comme celui-ci, sur lequel je travaille depuis 30 ans, hein, Préférence Nationale, et je rappelle un certain nombre de choses, j'explique un certain nombre d'enjeux, et puis après, les gens ils vont se saisir de ça, et puis ils pourront se décider dans un sens ou dans un autre. Et c'est parce que je crois que la connaissance telle que je la pratique a une vertu émancipatrice. Voilà. Je pense que les gens ont besoin de connaissances, surtout dans un monde où on est abruti constamment avec les nouveaux médias qui sont contrôlés, vous le savez, de plus en plus.
Par exemple, l'oligarchie des milliardaires.
Des milliardaires Bolloré et autres. Comment voulez-vous que... Bon, Donc, il y a des endroits comme vous qui résistez, un certain nombre de gens comme ça, et moi, je le fais dans mon travail. Donc, par rapport à ces questions qui sont hyper politisées, la distance que j'ai introduite, en réfléchissant à l'objet nation, nationale, en disant nous vivons dans des sociétés qui sont encore nationales, et nous-mêmes nous sommes pris là-dedans, c'est pas simplement les autres. Et il faut comprendre ça pour savoir exactement l'efficacité de la propagande qui est menée par l'extrême droite aujourd'hui. C'est quand même un problème sur lequel il faut s'interroger.
Oui.
On voit le niveau. Moi, quand j'ai commencé, vous savez, ma thèse sur l'immigration, c'était les débuts de Jean-Marie Le Pen, début des années 80.
D'accord.
Je me suis dit, Le Pen, il arrive à nous ressortir les vieux trucs pétainistes et autres, parce que nous, historiens, on n'a pas fait notre job. On n'a pas assez travaillé là-dessus. Et maintenant, on ne peut plus dire ça. Il y a des tas de gens qui ont fait des recherches. On sait
après qu'après Paxton.
Oui, voilà. Et puis sur Vichy, mais aussi sur l'immigration. On sait maintenant que la France s'est constituée de multiples immigrations, etc. Enfin bon, donc on ne va pas encore nous ressortir nos ancêtres les Gaulois. On parlera de Zemmour tout à l'heure, donc oui. On y reviendra. Et donc, voilà. Et donc, malgré tout, bon, le Front National à l'époque de Pen, c'était moins de 10%. Et aujourd'hui, on voit qu'ils sont caracolés en tête pour les sondages des prochaines élections européennes. Bon. Donc, voilà, moi, c'est ça qui, quelque part, je me dis, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a mal fait, etc. Et j'ai fait ce petit tract, vous dites, ça coûte 3,95 €, je pense que tout le monde peut se payer ça ou offrir ça pour l'anniversaire de tel ou tel. Je vais rassembler ce qui me paraissait essentiel dans ce débat-là, mais c'est vrai que, du coup, c'est pas dans le truc... préconstitué dans les médias, donc les gens ne m'invitent pas.
Revenons à Marc Bloch et l'étrange défaite. Parce que, après avoir lu Préférence nationale, avoir fait le plan avec mes compagnons du groupe Michel, j'ai tenu à relire l'étrange défaite de Marc Bloch. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce livre pour inciter les auditeurs à le lire après avoir lu votre tract?
Si vous voulez, c'est déjà dans le titre, Étrange défaite. Il y a le mot étrange là-dedans. C'est-à-dire, c'est une défaite à laquelle personne s'attendait quelque part. Hein. Et donc, moi, je dissocie quand même dans l'œuvre de Marc Bloch les deux livres qu'il écrit pendant la Résistance, parce que ça, c'est un livre écrit pendant la Résistance, quelques mois avant qu'il soit fusillé par la Gestapo.
Ouais.
Donc, il faut quand même tenir. Et il écrit en même temps Apologie pour l'histoire. Et je dis, il ne faut pas confondre les deux. Dans le premier, c'est son œuvre de savant qu'il défend. Il dit l'histoire scientifique telle que je la conçois, voilà, elle est autonome, elle ne dépend pas des pouvoirs, elle a une dimension critique, elle essaye de s'adresser à tout le monde, voilà. Et vous savez, Marc Bloch, un truc que je reprends souvent, il disait, attention l'historien, il ne doit pas avoir la manie du jugement. Nous, on n'est pas là pour juger, hein. Ça c'est la mémoire, il faut des gens qui jugent le passé, mais nous on est là pour expliquer. Moi je suis pris constamment dans des polémiques mémorielles dès que j'essaye de prendre un peu de recul. Parce que quelle a été mon expérience militante? Moi, j'ai été militant du PC pendant un certain nombre d'années, je vous l'ai dit, et ça s'est mal terminé, mais parce que ce qu'on voyait, de façon, pour tous les gens qui avaient un peu de recul, c'est ce qui allait se passer, c'est l'effondrement de ce parti qui était déconnecté par rapport aux réalités nouvelles, etc. Nous, on essayait de le dire, mais ça ne passait pas. Donc moi, je me suis dit, maintenant, moi, mon rôle, c'est justement de maintenir cette espèce de courage, de se tenir à distance, même parfois à distance des causes que je défends. Moi, je suis militant antiraciste, puis je suis étudiant, et il m'est arrivé, notamment dans mon livre avec Stéphane Beau, faire une analyse critique de l'antiracisme peut-être qui fonctionne aujourd'hui. Parce que j'estime que c'est pour aider, c'est ça qui va aider les militants. C'est pas qu'on dise comme eux, ils n'en ont pas besoin de nous. Ils font ils militent, etc. Mais nous, ce qu'on peut apporter de spécifique, en prenant une distance par rapport aux enjeux, et moi-même, je suis à cheval sur les deux. Quand je suis militant, je suis militant, mais quand je suis chercheur, je prends un recul par rapport à ma posture de militant. Pas un exercice facile, je ne dis pas que je le réussis à chaque fois, mais c'est quand même l'idéal vers lequel je tends et qui me vient de Marc Bloch. Et donc, dans le livre dont on parlait, L'étrange défaite, c'est une analyse du citoyen engagé qu'il était, avec aussi se disant, est-ce que j'en ai fait assez? Quelque part, est-ce que moi-même, je n'ai pas une responsabilité? On aurait peut-être pu crier plus fort quand on voyait monter cette extrême droite-là dans les années 30 et tout.
Voilà.
Et donc, il y a cette réflexion-là qui est aussi de dire à la fois maintenir une autonomie, parce que ça nous permet de voir des choses que peut-être ceux qui sont engagés dans le champ politique ne verront pas, mais en même temps, ne pas se taire. Voilà. C'est cette double leçon que j'ai retenue de Marc Bloch et que j'essaye d'appliquer dans le monde aujourd'hui, en soulignant quand même le fait que nous ne sommes pas dans la même situation qu'il l'était dans les années 30. Moi, je n'aime pas trop non plus quand on dramatise, quand on va... Vous voyez, aujourd'hui, on est dans une situation qui est problématique parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. C'est surtout ça. Mais actuellement, on n'est pas entouré par tous des pays qui nous font de la guerre, qui font la guerre, il n'y a pas de risque, même si Poutine et ce qui se passe en Ukraine va nous interroger. Mais voilà, il faut aussi essayer de caractériser le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je pense que c'est inquiétant, notamment parce qu'on voit que ça ne concerne pas que la France. Un peu partout, on voit la montée des forces conservatrices aujourd'hui. Et moi, je l'attribuerais à, c'est ce qui reste de mon marxisme, aux infrastructures, la notion d'infrastructure communicationnelle, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les chaînes d'info continues. Je pense qu'elles créent comme ça ce matériau qui nourrit constamment le discours sécuritaire, le discours de rejet de l'autre, d'étranger, etc. Et que ça fait le jeu des forces
extrêmement. Ouais. Voilà. Alors, on va aller dans le vif du sujet, mmh. Monsieur Noiriel. Je vais lire l'introduction de votre tract. La loi Asile et Immigration, votée le 19 décembre 2023, a placé au centre du débat politique une nouvelle polémique sur la préférence nationale. En France, le problème de l'immigration s'est imposé dès le début de la Troisième République. Et il a ressurgi à chaque fois que notre société a été en crise. L'histoire montre que la fuite en avant dans une politique de plus en plus répressive à l'égard des migrants, menée au nom de la préférence nationale, met en péril non seulement les valeurs humanistes de notre République, mais aussi les principes démocratiques de l'État de droit. En 1940, l'effondrement de la Troisième République fut l'ultime conséquence de cette dérive nationaliste et sécuritaire. Waouh ! Quand on lit ça, tout est dit. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va... On s'accroche. Et le tract, vraiment, on s'est accroché et on l'a lu de bout en bout. Et on a appris déjà que la préférence nationale, c'est une idée rance de la Troisième République, les débuts de la République.
Voilà. Alors, je ne mettrai pas le mot rance, vous voyez, parce que c'est un jugement de valeur.
Mais je donne ce jugement de valeur.
Oui, voilà, mais je ne le reprendrai pas à mon compte.
D'accord.
Parce que je crois que c'est un fait objectif. On peut le déplorer, le critiquer, mais ce qui s'est passé historiquement, c'est que nos sociétés se sont constituées sur une base nationale. Pas rien que la France, d'ailleurs. C'est le triomphe des États-nations, c'est-à-dire fondé sur le principe de la souveraineté nationale. Ça, c'est un acquis fondamental de la Troisième République. J'ai longuement montré dans mes travaux antérieurs. Si vous voulez, par exemple, je vais prendre juste un exemple. Avant la Troisième République, ce qui était la coupure fondamentale, elle était entre les classes laborieuses et les notables. C'était une coupure sociale. À tel point que, par exemple, les passeports, eh bien, si vous vouliez vous déplacer à l'intérieur de la France, d'aller d'un département à l'autre, il fallait demander un passeport. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la Troisième République? Eh bien, la citoyenneté, ça veut dire qu'on peut se déplacer librement sur son territoire, mais on renforce les barrières aux frontières. C'est donc à partir de ce moment-là que le clivage fondamental, ça a été français-étranger. Et c'est cette notion-là sur laquelle on vit encore aujourd'hui. Et je dirais que, et c'est ça que peut-être certains n'apprécient pas, mais nous-mêmes, quand on est français, on en a l'avantage que cette nationalité, cette protection nationale, elle a contribué à accroître les inégalités dans le monde entre les pays les plus développés et les pays les plus pauvres. Donc je veux dire, c'est un problème compliqué. Hein, surtout pour quelqu'un qui, comme moi, fonctionnaire, donc fonctionnaire de l'État, c'est toutes ces notions-là. Vous voyez, j'essaye toujours aussi de faire porter le fer, je dirais, dans des choses où on ne pourra pas forcément se donner toujours bonne conscience. Donc pour moi, c'est un fait incontournable, la réalité nationale, ce qui explique la difficulté de faire l'Europe aussi, d'ailleurs. Donc on est dans des sociétés nationales qui se sont imposées aussi grâce à la violence, guerre mondiale, donc l'identité nationale, l'appartenance, le machin, tout ça, c'est né grâce à ces guerres. Et du point de vue du droit, on reste fondamentalement là-dessus. Alors, là où j'irais dans votre sens sur l'utilisation du mot « rance », c'est qu'évidemment, après, ça dépend de ce qu'on va appeler « préférence nationale ». Il existe dans le droit français je dirais, dans le droit de tous les pays, des différences qui sont faites entre les citoyens d'un pays et les non-citoyens. Si vous êtes français, vous ne pouvez pas être expulsé, par exemple, sur un autre territoire, puisque c'est le principe de base, c'est justement qu'un État doit assurer la protection de ses propres ressortissants. Donc, il y a la question du droit de vote, enfin, bon, c'est donc je cite dans le livre un certain nombre de métiers qui sont encore réservés aux gens qui ont la nationalité française. Bon, ça recule, tant mieux, ça recule, mais c'est encore un des principes sur lesquels nos sociétés sont constituées. Ça, je dirais, c'est le droit national tel qu'il fonctionne. On ne peut pas dire que ce soit une thèse d'extrême droite, parce que même la gauche part de ce principe-là. Là où le bas blesse, c'est pour ça que j'ai incriminé cette loi qui vient d'être votée, c'est que le thème de préférence nationale, le mot de préférence, il a été introduit dans le discours médiatique, politico-médiatique, par un intellectuel d'extrême droite, qui s'appelle Le Gallou, Yves Le Gallou, au début des années 80. Et pourquoi il a introduit cette notion ? C'était pour créer des discriminations par rapport aux droits sociaux entre travailleurs. C'est-à-dire que les travailleurs, surtout dans une période où ils étaient de plus en plus nombreux, les travailleurs issus de l'immigration, eh bien, ils voulaient les priver d'un certain nombre de droits sociaux sous prétexte qu'ils n'étaient pas français. Donc c'était ça, la théorie de la préférence nationale. Au fond, elle a été diffusée comme ça. Et on retrouve ça dans le programme Le Pen a repris ça, et on retrouve ça encore aujourd'hui dans le programme du Rassemblement national. Et dans la loi
Asile et immigration,
ces articles-là étaient là. Donc c'est des thèses d'extrême droite validées par le gouvernement de Macron. Et c'est là que j'ai pris un précédent historique, qui est celui du Daladier, qui a été Premier ministre, enfin chef du gouvernement dans les années 30, qui était un républicain. Et il n'a pas soutenu Vichy, lui, après. Il a même été interné à l'époque de Vichy. Mais il a une faiblesse coupable. Il a cautionné les décrets-lois 1938 qui sont la porte ouverte après au camp. Hein,
L'internement.
L'internation des droits, l'interdiction des... Enfin, toute la répression des mariages mixtes, enfin, toute une série de mesures. La notion de clandestin, la persécution des gens. Alors, beaucoup étaient d'ailleurs des gens qui avaient fui le nazisme à l'époque. Hein. On a oublié ça. On a oublié. Même les gens qui vont combattre l'antisémitisme, ils ne vont pas rappeler ça.
Non.
Pourtant, il y a une solidarité qui devrait se créer à partir de ça, entre les gens qui subissent ça aujourd'hui et ceux qui l'ont subi dans le passé. Donc, si vous voulez, voilà, mon but, c'était de dire que le président de la République, aujourd'hui, il était engagé sur une pente où il y avait tellement de concessions qui étaient faites à l'extrême droite pour des raisons électorales, que finalement, c'était une forme de lâcheté politique, puisqu'il disait... C'est le Conseil constitutionnel qui va résoudre le problème. Alors, heureusement, le Conseil constitutionnel, c'est quelque part aussi la garantie de nos libertés dans une société démocratique, en tout cas en partie. Il a donc invalidé toute une série de dispositions de cette loi. Mais aussitôt, évidemment, ça donne des arguments à l'extrême droite. Ils disent, regardez, c'est très populaire, ce qu'on vous propose, les Français sont d'accord, et vous avez ces bureaucrates, ces sages, pseudo-sages qui nous invalident. Il faut donc changer la Constitution. Voilà. Mais si on laisse faire ce truc-là, où on va arriver ?
Oui.
Ça va être une régression formidable.
Tout à fait.
Donc je voulais mobiliser le public là-dessus, mais c'est vrai que les journalistes
n'ont pas trop suivi.
Non.
Nous allons faire une pause, messieurs. Mmh. Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission de groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne, et sur le net pour le reste du monde. Alors, nous sommes dans la deuxième et dernière partie de l'émission avec M. Gérard Noiriel, historien, pour son tract chez Gallimard, Préférence nationale, leçon d'histoire à l'usage des contemporains, 3,90 €, tract numéro 55 de Gallimard. Alors, M. Noiriel, nous allons présenter celui qui ouvre la boîte de Pandore, un certain Christophe Pradon, en 1880.
Oui, alors c'est vrai que c'est un personnage qui est peu connu hein, dans notre histoire politique, et pourtant il a joué un rôle tout à fait décisif dans la légitimation, je ne dirais pas de la préférence nationale, mais disons du droit à considérer que les Français devaient avoir des avantages par rapport aux étrangers. J'ai détaillé tout ça. Alors, pourquoi, si vous voulez, il faut bien voir que le contexte de l'époque, je précise que Pradon était de gauche.
Hein, c'est ça qu'il faut bien signaler.
Voilà, c'est un républicain de gauche. Donc, son souci, nous sommes au début des années 1880, il y a une très grave crise économique en France, qu'on appelle la Grande Dépression. Mais il n'y a pas de droits sociaux à l'époque, Mais c'est aussi les débuts du mouvement socialiste, anarchiste, etc. Donc, il y a une contestation qui est encore faible, mais qui commence à poindre. Donc, les républicains, qui défendent les intérêts de la bourgeoisie, en gros, essayent de trouver des solutions alternatives. Et lui, donc, il va s'emparer de ce sujet-là au début des années 80, parce qu'on vient de découvrir dès cette époque-là que l'immigration jouait un rôle décisif dans l'économie française. À l'époque, c'était surtout des Belges et des Italiens. Et donc, le chômage fait qu'il y a parfois des concurrences, même des rixes entre ouvriers. Donc, il va s'emparer de ça et il va construire donc tout un discours où on retrouve le schéma qui est encore aujourd'hui le même. C'est-à-dire, nos frontières ne sont pas protégées. N'importe qui peut entrer en France. On ne sait pas combien il y en a, c'est les clandestins, on ne sait pas combien il y en a. Ils nous espionnent, alors ça c'est l'époque aussi, c'est les Allemands à l'époque. Donc il faut des mesures coercitives pour les enregistrer. Parce que aussi la différence avec cette époque et aujourd'hui, c'est qu'avant Pradon, on ne savait même pas combien il y avait d'étrangers en France. Ils étaient enregistrés nulle part. C'était le vrai libéralisme, vous voulez. Les gens entraient, sortaient, etc. Donc Pradon, ce qu'il a imposé, ce qui est encore là aujourd'hui, c'est on va les enregistrer. C'est les débuts des papiers d'identité.
Tout à fait.
Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il va imposer un décret, et puis après qui sera une loi de 1893, qui est intitulée Protection du travail national d'ailleurs, où maintenant l'ouvrier qui vient en France, il doit se faire enregistrer dans la commune où il habite, et à partir de là, on va faire des fichiers. C'est le début de toute cette technologie, vous voyez. C'est pour ça qu'il a un rôle important, Pradon. Donc il y a aussi toute la thématique du sentiment d'appartenance. On se dit, regardez, ces gens-là. Alors, parce qu'à l'époque, une autre différence avec aujourd'hui, c'est quand on était issu d'immigration, on avait le droit. Admettons, les parents étaient arrivés. Les enfants étaient nés soit en France, soit dans leur pays d'origine. Quand ils arrivaient à leur majorité, ils pouvaient dire « Ah ben non, je ne suis pas français, je suis italien, je suis belge, etc. » Et leurs enfants aussi. C'est-à-dire, à chaque génération, on pouvait décliner. Et la majorité, l'immense majorité, je crois que c'est 80% de ces enfants d'immigrés, déclinaient la nationalité française. Pourquoi ?
Pour la conscription.
Ben voilà, ils ne voulaient pas faire service militaire. Donc, vous voyez, ce n'était pas des réseaux idéologiques, de nations, de machin, comme on nous fait croire aujourd'hui. C'était des intérêts concrets.
Ouais.
Et alors, Pradon découvre ça. Scandale.
Ouais.
On a des gens ici qui font des minorités. On ne disait pas communautaristes à l'époque. C'est le même topo, vous voyez. Ils font, et voilà, et ces gens-là vont se retourner contre nous. En plus, à l'époque, l'Italie était alliée à l'Allemagne dans la triplice contre la France et l'Angleterre, etc. Donc, donc ça fait un nouveau topo et ça va aboutir aux lois, qui est encore en vigueur aujourd'hui, sur la nationalité française, où désormais, vous savez, le double jus soli, vous êtes automatiquement français, on ne demande pas votre avis à la naissance si vos parents sont nés en France, etc. Donc vous voyez, un certain nombre de choses qui existent aujourd'hui, qui sont tellement banalisées qu'on ne sait même plus si elles ont une histoire ou quoi, datent de M. Pradon.
Tout à fait. Alors, la carte de séjour, donc l'extrait d'immatriculation, tout ceci arrive avec ceci. Et on a un problème parce qu'on a des Marx et Engels qui proposent l'internationalisation du prolétariat.
Voilà.
Et ils ont peu d'écho parce que justement, il y a un problème de nation finalement.
Voilà, c'est ce que j'explique aussi, c'est-à-dire que cette intégration ce que j'appelle moi la nationalisation de la société française. Donc, là je vous ai parlé de Pradon pour la protection des frontières, mais dans le même temps, il y a toute une série de lois qui visent à privilégier les Français. Même à l'époque, j'ai écrit un livre sur le massacre des Italiens à Aigues-Mortes, par exemple, en 1893, il y a des trimards à l'époque qui vont assassiner une dizaine de travailleurs italiens, et une cinquantaine de blessés. Les blessés, ils veulent se faire soigner à Marseille, le directeur de l'hôpital dit non, ils ne sont pas français. il y avait cette notion de protection des, qui atteignait des niveaux incroyables, quoi. Et donc, ça va créer un problème majeur pour le mouvement ouvrier, c'est qu'il y a une intégration du mouvement ouvrier dans l'État national. Vous voyez ? C'est-à-dire, de plus en plus, les partis ouvriers, socialistes ou radicaux socialistes, eh bien, ils se déterminent par rapport à des enjeux ou qui sont arbitrés par l'État français. Donc, ils perdent leur conscience internationaliste. Et c'est ça la différence avec Marx. Marx, son œuvre, elle date d'avant la nationalisation. Vous voyez, la première internationale, c'est 1864. Et là, effectivement, il y avait les anarchistes Bakounine, il y avait des divergences entre Marx et Bakounine, etc. Mais globalement, ces gens-là étaient internationalistes.
Oui.
Ils sous-estimaient le fait national parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas l'importance qu'il a prise
par la suite.
Mais après, et voilà, les gens sont confrontés et ça imprègne aussi la mentalité des ouvriers. À l'école, on leur bassine avec la France, etc. Il y a la menace de guerre, et ceux après qui vont faire la guerre et tout, ils vont se dire « je l'ai faite pour la France
oui. ».
Donc l'identité nationale, le sentiment de français va se développer. Et qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, en 14, quand la deuxième internationale autour de Jean Jaurès milite pour la paix en se disant « ouvrier allemand, ouvrier français, front commun pour éviter la guerre », ils ne sont pas écoutés.
Jaurès est assassiné,
et ça va être, vous voyez, l'engagement de la fleur au fusil, comme on dit, dans la guerre. Donc, si vous voulez, vous voyez, ces choses-là sont dramatiques. C'est là qu'on voit les effets que peuvent avoir ces discours sur la préférence nationale.
Bien. Alors, nous allons revenir à 1900, au pourcentage. En 1920, comme vous l'avez dit très bien dans votre traite, 8,6% des immigrés était en France. Aujourd'hui, il y en a 7,8%. Donc, à chaque fois qu'il y a des retournements de conjoncture, les immigrés deviennent un problème pour la nation. Donc, il y en avait beaucoup plus qu'avant, et on a l'impression, et on vous donne l'impression, que c'est un problème insurmontable.
Nouveau et insurmontable.
Voilà.
Oui, alors ça, c'est, vous savez, quand j'ai écrit mes premiers livres sur l'histoire de l'immigration, notamment le creuset français, j'ai mis ça en valeur. Ce que vous venez de dire, à la fin des années 20, la France est l'un des pays du monde qui a le plus fort taux d'immigration. Parce que dès la fin du 19e, avant la guerre mondiale, ça a aggravé les choses, évidemment, mais dès le début du siècle, du 20e siècle, certaines années, il y a plus de morts que de naissances. Les Français ne font plus d'enfants. Les ouvriers, les paysans font la grêle des ventes, si vous voulez, le malthusianisme, oui. Parce qu'ils se disent, si on a beaucoup d'enfants, nos enfants ils vont devenir des prolétaires, c'est une manière de résister. Et donc, on va chercher ces immigrants qui, dès cette époque-là, vont remplacer ces ouvriers qui manquent. Et à la fin des années 20, la France a un taux d'immigration plus fort que les États-Unis. Et effectivement, je cite une statistique de 1930 qui prouve que le taux d'immigration étrangère, je vais revenir pourquoi j'insiste sur étrangère, était plus fort à cette date-là qu'il ne l'est aujourd'hui, alors qu'on nous fait croire qu'on n'a jamais eu tant d'immigrés, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là que l'idéologie, vous voyez, le système de représentation qui nous est inculqué par l'extrême droite a une efficacité. Aujourd'hui, on ne nous parle plus d'étrangers, on nous parle d'immigrés.
Oui.
Mais ça, dans le droit français, ceux qui sont respectueux des valeurs de la République, ils ne devraient pas dire immigrés. Parce que dans la tradition française, on distingue juridiquement, c'est une définition juridique, c'est pas l'origine des gens. Immigrer, ça implique l'origine des gens, puisque dedans, on met une partie de gens qui sont français.
Ouais.
Donc, si vous voulez, évidemment, si vous, comme le font ceux qui manipulent l'opinion du Front National, ils vont comparer étrangers et immigrés. C'est sûr qu'il y a plus d'immigrés que d'étrangers, puisque dans les immigrés, il y a une partie de gens qui sont français. Donc, on peut gonfler comme ça artificiellement des chiffres pour faire peur aux gens. Et c'est ça qui, contre lequel je trouve que ceux qui se disent démocrates, républicains, ne résistent pas assez. Ils vont dans le sens, vous voyez, du vent. Donc c'est ça que je rappelle aussi dans ce livre, comment la manipulation des mots a des effets politiques.
Bien. Alors, n'oublions pas que le 21 avril 1933, Hitler prend le pouvoir. Par les urnes. Ça, c'est une... C'est un fait historique, historien, il ne faut pas y revenir là-dessus. Et vous dites qu'il était possible de résoudre ce qui traversait la société française par rapport au par rapport à ce problème d'immigration. On allait droit dans le mur à partir du moment où on a commencé à rentrer dans la rhétorique et dans le pas de l'extrême droite de l'époque.
Si vous voulez, ce qui s'est produit, c'est que à toutes les en raison de ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire le fait national, hein, oui. Le fait que les individus dans une société sont intégrés dans des états-nations, mm-hmm. ça implique dans leur mentalité, vous voyez, un sentiment, voilà, qu'ils sont français. Être français, c'est un élément qui traverse les époques. Et donc, ça peut toujours être manipulé, vous voyez. Donc, c'est ce qu'a fait la droite constamment, en privilégiant ce facteur-là, en disant, on défend les Français, par rapport à une gauche qui, pendant longtemps, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais défendait l'identité sociale des gens, ouais. Vous voyez. Donc, pendant longtemps, droite et gauche, ça veut dire les uns défendaient le truc national, en disant la nation française est menacée, etc. Et la gauche défendait la question sociale, vous voyez, en disant ce que vous appelez question nationale, en fait, c'est une question sociale. Voilà. Ça, ça a été le clivage. Mais selon les époques, je montre aussi que selon les époques, eh bien, l'hégémonie politique peut passer de droite à gauche. En 1936, c'est le discours de gauche qui s'impose. C'est le Front populaire, c'est l'alliance des classes populaires, etc., qui l'emporte. Mais à d'autres époques, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on vit dans une époque où l'inverse, c'est-à-dire c'est la logique nationale qui l'emporte. Donc, je veux dire, la logique qui est aujourd'hui, la logique des sondages. On nous dit, les Français, sans arrêt, l'extrême droite nous dit, on ne fait qu'exprimer ce que pensent les Français. Mais les sociologues ont montré ce que c'était qu'un sondage, c'est une manipulation de l'opinion. Combien il y a d'ouvriers qui sont députés aujourd'hui en France? Il y en a zéro. Hein? Donc on nous dit, on parle au nom des Français, mais alors qu'à l'Assemblée nationale, les députés, ils sont tous issus des mêmes classes privilégiées.
Alors, il y a une députée qui est issue, oui. De l'ouvrier, c'est Madame Kéké, qui est anciennement femme de ménage, voilà. Et que nous avons beaucoup reçue à Radio Libertaire, parce qu'elle faisait partie d'un conflit le plus vieux de 1968, qui était celui de Ibis Batignolles. Voilà, c'est la seule. Voilà. Et elle a fait un discours remarquable en expliquant qu'elle, elle a élevé 5 enfants avec 900 euros par mois, et qui a pu, dans cette assemblée, Auguste, élevé, oui, avec 900 euros.
Voilà.
Donc, remarquable.
Voilà, j'avais fait une différence entre ouvriers et employés, je la classais plutôt chez les employés. Il y a, je crois, une dizaine en tout, sur 650, de gens qui appartiennent au monde des employés, qui aujourd'hui, vous avez raison de le souligner, c'est vraiment les mêmes conditions que les ouvriers. Donc, on voit bien la sous-représentation des classes populaires. Alors, les mêmes qui vont les complètement marginaliser au profit des bourgeois et des milliardaires, vont nous faire le coup de dire on parle au nom du peuple, qui peut croire ça? Mais c'est les sondages, c'est la manipulation des sondages. C'est pour ça que je rappelle Hitler. Parce qu'Hitler, il a légitimé son coup de force, hein, qu'il a imposé comme dictateur, à partir d'un plébiscite.
Oui.
Une grande majorité d'Allemands avaient voté pour lui. Donc il ne faut pas nous faire croire que la fin de la démocratie, c'est simplement une élection, un sondage, etc. S'il n'y a pas tout un travail après, d'explicitation, de mise en, comme les Gilets jaunes avaient essayé de le faire à certains moments, d'assemblée de base, etc., où les gens puissent s'exprimer, on puisse décortiquer tout ça, etc., c'est bidon, les sondages. Donc, il faut faire attention à cela, parce que c'est l'argument principal qui est avancé aujourd'hui.
Alors, nous arrivons à la dernière partie de votre tract, que nous avons apprécié, surtout moi. Macron, d'aller du 21e siècle. Et surtout, vous expliquez qu'il n'a rien inventé, y compris en même temps, ça date de la Troisième République.
Ben oui, alors le en même temps, c'est une vieille lune, hein, des politiciens depuis le début de la Troisième République, si vous voulez, en gros, surtout en France. Hein, pour gagner les élections, il faut se dire au centre. Donc pendant longtemps, c'était les radicaux, c'était le parti du centre, un peu de gauche, un peu de droite, etc. Et ils sont maintenus comme ça au pouvoir, et Daladier est un bon représentant. Daladier, c'est un républicain, donc centriste, on pourrait dire, mais qui avait contribué à la victoire du Front populaire. C'est lui qui avait, vous voyez, au moment où le front antifasciste, hein, en 1934, il était là, engagé plutôt à gauche, et voilà. Mais après, les difficultés du Front populaire, eh bien, il va, on pourrait dire trahir, ce serait peut-être un grand mot, mais en tout cas,
retourner
sa veste, et il va remplacer Léon Blum. Et là, vraiment, c'est le virage à droite. C'est le virage à droite, puisque d'une part, il va remettre en cause les droits sociaux de 36, hein, les 40 heures, et puis d'autre part, eh bien, il se lance dans toute une série de décrets-lois. Décrets-lois, ça veut dire que ce n'est même pas discuté, hein, c'est imposé par le gouvernement.
Comme le 49-3.
Voilà, c'est ce genre de 49-3 de l'époque. Et puis, il reprend à son compte donc, des argumentations, mais toujours au nom des valeurs de la République. D'ailleurs, pardon, c'est pareil, j'ai oublié de le préciser, mais tous ces gens-là disent que c'est au nom des valeurs de la République, quoi. Donc, c'est assez ahurissant. Donc là, oui, effectivement, Daladier se laisse, je pense qu'il est autant victime que coupable, enfin, je ne veux pas le juger, mais je dis, vous voyez ce qui arrive dans l'histoire quand vous avez des républicains qui, finalement, n'ont pas le courage, parce qu'ils ils ont peur de perdre les élections, ou bon, je précise quand même qu'à l'époque de Daladier, la situation était bien plus dramatique que celle à laquelle est confronté Macron. C'est en 38, vous savez, Daladier, il est aussi aujourd'hui, on lui reproche les accords de Munich, parce qu'il avait accepté qu'Hitler annexe la partie de la Tchécoslovaquie, vous savez, les Sudètes, tout ça. Bon, donc il y a une situation qui est extrêmement tragique, on est au bord de la guerre, donc ça peut peut-être nuancer ce que je dis sur Daladier par rapport à Macron, mais c'est la même logique. Et donc je pense que Macron valide, au nom des valeurs républicaines et au nom de la démocratie, des thèses qui sont indéfendables du point de vue des principes démocratiques, à tel point que même le Conseil constitutionnel en a invalidé une partie, et que ça... D'abord, ce que j'ai montré aussi déjà dans mes travaux depuis longtemps, c'est que les Français, ils préfèrent l'original à la copie.
Oui.
Donc, ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un qui se dit républicain et qui est considéré comme républicain, va valider des thèses d'extrême droite qui va remporter les suffrages d'extrême droite. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Parce que les gens se disent, si même lui le dit, c'est que les autres avaient raison. Et donc, ça renforce, ça ne fait que renforcer les tendances d'extrême droite. Donc, c'est aussi ça que j'ai voulu montrer dans ce petit tract.
Alors, dans votre petit tract, vous faites allusion à un monsieur que je lis régulièrement, monsieur Veil.
Patrick, oui.
Voilà. Vous le connaissez ?
Oui, oui, c'est un ami, oui.
Alors, si vous pouvez en parler un tout petit peu à nos auditeurs.
Oui, oui, alors Patrick Veil, on fait partie de la même génération. Donc, on a été, je dirais, la première génération qui a vraiment légitimé l'histoire d'immigration, parce qu'avant, ça n'existait pas.
Tout à fait.
Et donc, on a été aussi les cofondateurs du musée de l'immigration. C'est tendance à être oublié aujourd'hui,
oui.
Mais c'est nous qui avons créé ce musée, et nous avons démissionné en 2007, quand Nicolas Sarkozy a créé le ministère de l'Identité nationale. Patrick et moi, on faisait partie du conseil scientifique qui s'est retiré de cette affaire-là. Voilà. Donc on a amené, alors lui il est plus juriste que moi je suis plus sociologue, mais disons on a œuvré, on a toujours des liens d'ailleurs aujourd'hui, et lui-même s'est mobilisé au moment de cette loi, un des aspects, donc il reste quand même aujourd'hui au sein du monde, c'est ce que je montre aussi, c'est qu'aujourd'hui il y a une grande fraction du milieu universitaire qui est spécialiste de ces questions-là, qui est très critique par rapport à ces lois. Parce qu'on montre qu'elles aboutissent jamais, c'est ce que je montre aussi dans le livre. Donc, ça fait de la surenchère. Quand vous dites, vous allez voir avec moi, tous ces clandestins, là, on va les foutre en prison, ou bien on va les renvoyer, il n'y en aura plus. Ça ne se fait jamais, parce que c'est très compliqué. Il y a des tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte, du droit international. Ben, heureusement, oui. Puis les gens ont des... Voilà, il y a une multiple chose. Donc, celui qui a dit ça, les autres lui disent, ben, vous avez dit ça, tu n'as pas fait. Hop, et un petit cran encore en plus à droite. Et on va... Et c'est pour ça que je dis que les années 30, ça a préparé Vichy.
Oui.
Parce que Pétain, c'est ce qu'il a dit. Même à Daladier. Mais qu'est-ce que vous avez fait, les Républicains ? C'était du laxisme. Vous n'avez pas été assez loin. Avec moi, on va aller beaucoup plus loin. Off, et on supprime la République. Voilà. C'est ça le point d'aboutissement.
Tout à fait.
Et si vous mettez tout le monde dans des camps, évidemment, là, vous n'aurez plus de clandestins. Et encore. Enfin, voilà. Donc, je veux dire, vous voyez... C'est des mauvaises manières de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés nos élus.
Alors, vous donnez vos solutions. Vous dites qu'on doit, s'occuper des intérêts de la classe ouvrière et réaffirmer un front de gauche. Est-ce que vous pouvez développer pour nos auditeurs, pour leur donner un espoir, pour qu'on ne finisse pas sur une note négative ?
Oui, alors je dis que d'une part, il faut bien nommer les choses. C'est pour ça que j'ai été, un petit passage critique par rapport à ceux qui croient que cette loi immigration, ils la rangent dans le racisme systémique. Je pense que c'est une confusion qui ne sert pas à la cause. parce qu'elle peut s'appliquer à des gens qui ne sont pas forcément issus d'immigration postcoloniale.
Tout à fait.
Donc, voyez, et du coup, ça affaiblit l'argumentation parce que les autres, je donne un exemple d'une élue macroniste qui vient du Bénin, je crois,
ouais, voilà,
et qui dit, mais non, c'est pas raciste, elle est bien classée quand même, puisqu'elle est issue d'immigration africaine. Elle dit, bah, regardez. Donc, alors du coup, vous voyez, ça, c'est pas fort comme impact. Il vaut mieux mettre l'accent sur la question nationale, voilà, en disant que, bien sûr, les principales victimes, ce sont malgré tout des gens qui sont issus d'immigration postcoloniale, parce que c'est eux qui occupent les emplois les plus difficiles. Et cette loi immigration, il faut bien voir que ça, le pire de cette loi, c'est les aspects sociaux,
voilà,
qui privent de l'APL, qui privent des droits élémentaires, des gens qui travaillent, qui ont des enfants et tout.
Donc c'est, et qui ont des bas salaires.
Voilà. Et donc je dis, par rapport aux gens qui... Je me dis, les gens qui votent pour le Rassemblement National aujourd'hui. Moi, je reconnais, même dans ma famille. Hein, je veux dire, c'est pas... Voilà, c'est je me dis, au lieu de les prendre, vous voyez, en direct, vous êtes tous des fascistes, des nazis, des machins... En plus, on n'arrive pas à convaincre les gens comme ça.
Non.
Il faut donc essayer de trouver un moyen, c'est ça que j'explique, pour essayer de leur faire faire un cheminement, en partant, oui, de ce qu'ils croient, de ce qu'ils sont, mais en leur disant, vous faites fausse route par là.
C'est vous pas en privant les gens de,
ben voilà,
du peu qu'ils ont, que vous serez plus heureux.
Ben voilà, c'est pour ça que je dis, la solution sociale, c'est de dire, vos problèmes, faites attention, les gens qui vous focalisent sur l'immigration, c'est pour qu'on ne vous parle pas des injustices qui font que les Bolloré et autres ne payent pas d'impôts, qu'ils sont milliardaires et qu'ils gagnent en une heure ce que vous ne gagnerez pas dans toute votre vie.
Tout à fait. Hein?
Donc je vais dire, et c'est là qu'il y a une solidarité, c'est là qu'on peut créer des hégémonies. Et on voit dans l'histoire de la gauche qu'à chaque fois que la gauche a gagné des élections, c'est sur cette base-là, c'est sur cette base sociale qui n'empêche pas qu'on puisse intégrer aussi le racisme, les discriminations sexistes, tout le reste. Mais pas les opposer, pas les occulter. Et maintenir ce fil conducteur, parce que c'est celui qui rassemblera le plus de gens. Voilà ce que je dis par rapport à ça, principalement.
Bien. Monsieur Noiriel, je rappelle le titre de votre tract, Préférence nationale, leçon d'histoire à l'usage des contemporains, chez les tracts Gallimard, 3,90 €, et c'est le numéro 55, parce qu'il y en a plusieurs, donc il faut demander le numéro 55 pour avoir le vôtre.
Voilà.
Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Et je vous souhaite bonne continuation et surtout que la lutte continue.
Ben oui, il faut avoir encore l'énergie. Vous voyez, j'en ai encore pas mal, là, c'est bien.
Merci infiniment, monsieur Royer.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
Merci à Jean-Michel.